C'est pas du vent. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Soyez les bienvenus dans ce nouveau rendez-vous de C'est pas du vent. Votre émission environnement est désormais diffusée en semaine, le jeudi et le vendredi, pour notre plus grand plaisir et nous l'espérons aussi pour le vôtre. Ce nouvel horaire de diffusion est l'occasion de vous offrir quelques nouveautés comme la chronique de la collapsologie, la science de l'effondrement. C'est passionnant, vous entendrez la première tout à l'heure avec l'ingénieur agronome Pablo Servigne. Mais tout d'abord, place à notre invité du jour, le philosophe Dominique Bourg, professeur à l'Université de Lausanne, président du Conseil scientifique de la Fédération pour la Nature et l'Homme. Il vient de publier une nouvelle terre chez Desclée de Brouwer.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour.
Votre livre est ambitieux, on va démarrer tout de suite par cela. Vous nous rappelez que nous sommes entrés dans l'Anthropocène, une nouvelle ère géologique caractérisée par l'influence majeure de l'homme sur le milieu terrestre. Vous nous expliquez ensuite comment nous en sommes arrivés là. Puis vous nous proposez une solution simple à énoncer mais assez difficile à concrétiser. Nous libérer enfin de la relation à la nature forgée par la modernité, écrivez-vous, qui consiste à la transformer et à la dominer. Alors est-ce que j'ai bien résumé ?
C'est un excellent résumé, oui.
Alors on va essayer de détailler tout cela de façon la plus pédagogique possible. Tout d'abord, donc, nous sommes entrés dans cette nouvelle ère géologique, l'Anthropocène. Ça veut dire quoi ?
Alors, l'Anthropocène, littéralement, c'est l'époque de l'homme. C'est-à-dire, en fait, le moment de l'histoire de la Terre au sein duquel l'influence des êtres humains sur le système Terre est devenue l'égale d'une forge géologique. Même sur le temps court, c'est la forge géologique principale. Mais quand on a dit ça, on n'a donné qu'un aspect des choses, puisqu'on agit et on vit à l'intérieur d'un système. Plus on agit sur ce système, et plus le système, lui, réagit, rétroagit sur nous. Et donc, le second côté, c'est l'ère dans laquelle nous entrons, où nous allons subir une dégradation de l'habitabilité de la Terre de plus en plus forte. Et elle a commencé.
Oui, alors vous dites, nous sommes devenus une force géologique que nous ne savons pas maîtriser.
C'est le moins qu'on puisse dire. On ne cherche même pas à la maîtriser. On a une idéologie qui est très simple. Il y a des solutions techniques à tous les problèmes. En plus, ces solutions techniques, on les conçoit toujours en silo, indépendamment les unes des autres. Donc vous avez la recette la plus détonnante pour tout faire sauter. Et je pense qu'on a beaucoup de talent.
Et du coup, l'état des lieux est catastrophique. Alors, artificialisation de la surface de la Terre, tout d'abord.
Oui, alors ça c'est l'aspect géographique, si l'on veut, des choses, le plus simple. Si on en restait là, on pourrait croire que nous allons dominer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'on entre dans le, si vous voulez, l'anthropocène, d'une certaine manière, de manière statique, sans voir la dynamique des forces en présence, c'est-à-dire on agit mais le système réagit. Alors non seulement le système réagit, mais en plus, puisqu'il s'agit d'un système, lui-même peut influer sur la capacité d'action de ses parties, soit les réfréner, soit au contraire les intensifier, ce qui fait que dans un système, vous avez des ruptures de seuil. Et quand on agit fortement sur le système, on ne sait pas forcément où ça vous conduit et on ne sait pas à quel moment les choses peuvent déraper, à quel moment on peut basculer dans un état différent du système. Et aujourd'hui, alors si on prend les deux grands paramètres, en fait les paramètres, si vous voulez, de l'entrée dans l'Anthropocène, c'est ce qu'on appelle les fameuses limites planétaires, avec les deux premiers paramètres qui sont, d'un côté c'est nos effets sur le vivant, c'est-à-dire déjà l'effondrement des populations et puis derrière l'accélération du rythme d'érosion des espèces, et puis de l'autre côté tout ce qui va concerner le climat, qui est un peu l'équivalent, si vous voulez, pour le corps humain, de la température du corps. Donc là, on agit massivement sur ces deux paramètres, et donc effectivement, on le voit maintenant, on fait basculer le système. Là, les études pleuvent pour nous dire qu'on commence à avoir un effondrement des espèces ordinaires, alors déjà des populations, et derrière des espèces elles-mêmes. Et si vous regardez sur le plan du climat, il suffit simplement de prendre comme indicateur, si vous voulez, le coût moyen, pécuniairement parlant, des catastrophes naturelles aux États-Unis, des années 80 jusqu'à Harvey, c'est assez édifiant.
Et puis donc, je le disais, artificialisation de la surface de la Terre, 83% de la surface des terres émergées non glacées sont sous influence humaine, 83%, c'est quand même colossal.
C'est énorme.
Et du coup, vous écrivez que notre espèce a connu récemment une prolifération analogue à celle d'une tumeur cancéreuse affectant puissamment le système qui l'accueille.
C'est un simple constat.
Alors du coup, vous parlez de dommages transcendantaux.
Oui, alors justement, ce que je veux dire par là, je dois dire que je ne supporte plus d'entendre le mot risque. Parce que si vous voulez, en parlant de risque, on met tout sur le même plan, et en fait, les risques, d'une certaine manière, on les invente au 19e siècle. C'est-à-dire, c'est solidaire du système assurantiel, ça suppose qu'on est une société des individus, et qu'effectivement, on est un système pour tenter de pallier les dégâts. Alors ça ne marche que si c'est une partie du système qui est atteinte, et ça ne marche que si c'est mutualisable et puis compensable. Mais à partir du moment où vous dégradez l'habitabilité de la Terre, et puis si on allait jusqu'au bout, on aurait l'atmosphère de Vénus, vous pensez bien que et le côté partiel et le côté compensable n'ont aucun sens. En fait, c'est ça là, qu'on a vraiment du mal à comprendre, c'est qu'on est en train de changer les conditions d'habitabilité de la Terre. Le notre problème aujourd'hui, c'est un problème de représentation. On ne se représente pas qu'on vit au sein d'un système, le système Terre. On continue toujours à être chez les classiques. Hein, on est sur Sirius, et puis de temps en temps, on domine tel et tel aspect de l'horloge Terre. Ça n'a plus rien à voir avec ça.
Et vous donnez par exemple, et c'est assez intéressant dans votre livre, l'exemple du granit, en disant il y a tout un cycle en fait, du granit qui remonte à la surface de la Terre et qui redescend, se fait fondre
se
dans le cœur de la
Terre.
Et qui se reforge en permanence. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience, enfin, sauf si on l'a étudié à l'école, mais en tout cas, on l'oublie, alors que ça, c'est un cycle complètement naturel. C'est-à-dire que ce granit se fait seul, et à cause de nos activités humaines, on pourrait, par exemple, casser ce cycle du granit qui se forge tout seul, et c'est vrai pour plein d'autres systèmes.
Alors, le granit, on en a quand pas là, mais on a perturbé effectivement le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, le cycle du soufre, le cycle de l'eau, le cycle du carbone. Bien sûr, c'est-à-dire on a commencé à perturber la quasi-totalité des grands cycles biogéochimiques qui sont en quelque sorte l'armature du système Terre. Et ça, on les a vraiment totalement bousculés. Je vous rappelle, pour le climat, la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, vous avez 40% de CO2 en plus, vous avez 30% de protoxyde d'azote en plus, vous avez le double de méthane. Si vous prenez les flux d'azote du fait des activités agricoles, ils sont deux fois et demi ce qu'ils seraient sans les activités humaines sur Terre. Il faut être un peu neuneux pour imaginer qu'avec tout ça, il n'y aura aucune conséquence.
Alors du coup, vous nous appelez tous à un sursaut de conscience. Alors à ce sujet, je vous propose d'écouter la manière dont le ministre français de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a harangué les députés à l'Assemblée nationale la semaine dernière.
30% d'oiseaux en moins en quelques années. 80% d'insectes en moins à l'échelle européenne. La semaine dernière, le dernier grand mâle du rhinocéros blanc du nord de l'Afrique a disparu. Moi, ça ne provoque pas de la peine, pas de la colère, de la honte. De la honte de savoir que derrière la sixième extinction de la biodiversité, la responsabilité, c'est nous. Et que plus l'on réduit la biodiversité, plus l'on réduit nos options pour faire face à l'avenir. Il y a des tragédies invisibles et silencieuses dont on s'accommode tous les jours. Eh bien, je vous le dis, tout seul, je n'y arriverai pas. Oui, je vais vous présenter un plan biodiversité dans les semaines qui viennent, qui va succéder à la stratégie de la biodiversité. Mais très sincèrement, tout le monde s'en fiche, à part quelques-uns. Donc je veux simplement avoir un sursaut d'indignation et de réaction, parce que l'humanité a une communauté d'origine avec le vivant, et il a une communauté de destin avec le vivant. J'ai besoin de chacun d'entre vous. Merci.
Votre réaction, Dominique Bourg.
Ça, c'est le Nicolas que je connais. Et c'est le Nicolas que j'apprécie. C'est magnifique, il a complètement raison. Maintenant,
c'est
si
magnifique
on...
et pathétique.
Totalement pathétique, parce qu'en fait, je suis désolé, j'espère qu'il ne m'écoute pas, mais ça ne changera pas grand-chose. C'est tout le système agricole qui est derrière. Et vous avez vu la force de ces lobbies, la force du déni, la puissance qu'ils ont, pas simple.
Et c'est pour ça qu'il dit, je n'y arriverai pas tout seul, et tout le monde s'en fiche.
Peu de choses près, que ce soit la biodiversité ou le climat, ne me dites pas que ça affole les gens. Ça les angoisse un peu à l'heure du thé. Mais non, ça n'effraie personne, malheureusement. Et c'est ça toute la difficulté, d'ailleurs. C'est que tant qu'on n'est pas saisi par nos sens, par un danger immédiat, on a tendance à ne pas réagir. Et alors, en plus, évidemment, l'Assemblée nationale, bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est le domaine du présent. Ces gens-là sont là pour décider d'intérêt au présent. Il est nécessaire qu'on le fasse. Le problème, c'est que ça empêche de tenir compte de ces grands enjeux sur le long terme. C'est-à-dire que lorsque vous avez, dans l'histoire de la Terre, une extinction massive, c'est-à-dire au moins, enfin, à partir de 75% des espèces qui disparaissent, alors on n'y est pas, mais on y va très, très, très probablement, et bien le temps de reconstitution, évidemment pas la même biodiversité, mais d'une biodiversité d'une richesse analogue, c'est 5 à 10 millions d'années. Le climat, dans 100 000 ans, aura encore une petite partie des gaz à effet de serre qu'on aura accumulé jusque, j'espère, pas pas plus loin, le milieu du siècle, etc., etc. Donc le présent joue sur un temps très long. C'est pas le temps de la prospective. Alors là, on est sur des longueurs qui excèdent largement le temps des civilisations. Et ça, c'est notre civilisation qui a créé ça, et on est absolument incapable de faire face.
Je vous laisse digérer ce tableau apocalyptique en musique. Allez, une petite pause pour respirer, ça nous fera du bien. Avec Franco et Loquet Jazz, ça s'appelle Coopération.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Direct de Kinshasa avec Loquet Jazz. Yeah.
Yaya babina, bisoto luka kakaninyo Makuta e kota, bambu le zali kompusana Mosalo yo topona, yako sepili samitema To sepe lamboka, landa mosala kota la simate Nandenge ya oken jazz, simba mikro koyo kabangote Imisa mongongo e, ga ilwa mboe
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, vous avez bien raison. Nous sommes en compagnie du philosophe Dominique Bourg aujourd'hui, qui vient de publier Nouvelle Terre chez Desclée de Brouwer. Dominique Bourg, vous nous avez expliqué que nous sommes entrés dans l'anthropocène, c'est-à-dire que nous, les humains, nous avons tellement impacté la Terre avec nos activités que nous bouleversons les équilibres du système Terre. Mais nous n'avons pas tous le même niveau de responsabilité, comme le constate depuis des années l'éco-anthropologue Serge Bahuchet.
Il y a eu un impact beaucoup plus grand. D'abord parce que la population s'est accrue considérablement depuis 50 ou 60 ans ou 100 ans. Hein. On est passé de 3-4 milliards à 9 milliards en moins d'un siècle. Hein. Donc c'est quelque chose d'absolument vertigineux. À partir de là, il y a effectivement une pression sur les ressources qui s'accroît. La nécessité de plus de surface agricole. Il y a aussi l'expansion coloniale à partir du moment où les Occidentaux vont s'installer sous les tropiques pour obtenir des ressources dont ils ont besoin. Ils changent le milieu naturel, ils changent le mode de vie des sociétés. Donc ça, c'est le 19e siècle. Et puis, l'élément moi qui m'a paru le plus important, finalement, bon, moi, vous l'avez dit, j'ai travaillé en Afrique centrale, la forêt équatoriale, c'est le mythe de la forêt vierge, pour nous, les Occidentaux. Et en fait, on sait maintenant, grâce aux études des historiens, des anthropologues, des archéologues, que dans la forêt équatoriale, les hommes ont fait de l'agriculture dans des milieux où l'on pense qu'ils sont intacts de présence humaine. Et on sait qu'il y a des hommes dans la forêt depuis plus de 10 000, 20 000, 30 000 ans. Et l'agriculture, elle a transformé les milieux. À partir de là, il arrive à une constatation solide, qui est certaine, c'est que ces forêts qu'on essaye de conserver aujourd'hui par des parcs nationaux en disant les hommes la détruisent, ces forêts, elles ont été construites, si on veut, avec la présence de l'homme. Et donc, là, il y a un... Alors, évidemment, quand on est en France, qu'on se promène dans les champs, c'est évident que les champs de blé, il y a des milliers de générations d'agriculteurs, ça va de soi. Mais il y a plein de milieux où on ne s'en rend pas compte, mais où ils ont été présents aussi, nos ancêtres.
Et donc, à partir de là, vous dites, c'est possible de réécrire un contrat.
Alors ça, c'est le souhait. Après, il y a des réalités qui sont qu'il y a la moitié de la population du monde qui vit dans des villes. Donc ça, ça fait des ordres majeurs, parce qu'il faut les nourrir, tous ces gens-là. Donc il faut avoir des systèmes de production agricole et d'approvisionnement, des réseaux d'approvisionnement qui permettent de nourrir tout ce monde-là. Vous savez, en Afrique, un des problèmes majeurs, c'est le bois de feu. Pour alimenter les foyers, il faut du bois. Et pour avoir du bois, on va le couper dans la brousse. Donc toutes les brousses qui sont autour des villes, elles sont désertes. Donc il y a à trouver des processus de gestion des espaces et des ressources qui soient beaucoup plus harmonieux que ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même très anarchique, à mon point de vue.
Dominique Bourg, comment réagissez-vous à ces propos de Serge Belchet ?
Il soulève, on va continuer sur la question d'Anthropocène, parce que là, il soulève un problème qui est très très fort dans l'appellation même d'Anthropocène. Hein, c'est Anthropos, l'homme en général. Évidemment, l'humanité en général, ça masque des différences de civilisation qui sont énormes. Hein, là, il rappelle dans tous ces peuples qui ont cultivé, qui étaient des peuples agricoles dans la forêt équatoriale, en quelque sorte, ces peuples-là l'ont façonné et l'ont en aucun cas détruite. Il ne faut pas s'imaginer que la présence de l'homme est systématiquement destructrice. Elle peut faire naître les cultivars, elle peut enrichir un milieu. On avait vu aussi en forêt amazonienne que, effectivement, à l'abord des villages, du fait des détritus humains, il y avait une biodiversité qui était plus importante que plus loin. La relation de l'homme au milieu n'est pas nécessairement destructrice. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se cumulent. On a une civilisation qui est une civilisation, si vous voulez, effectivement, d'origine occidentale, de domination. C'est-à-dire que, pour nous autres occidentaux, et ça remonte assez loin au Moyen-Âge, petit à petit, la manière dont on voit les choses a complètement changé, sans qu'on en ait d'ailleurs nécessairement conscience. On en prend conscience en quelque sorte après coup, et au bout d'un certain temps, pour un occidental, la nature c'est quelque chose qui n'a de valeur que pour autant qu'on peut l'exploiter et la transformer. Un occidental qui voit un bœuf dans un champ, il voit pas un animal magnifique, il voit de la viande à débiter, c'était effectivement assez horrible. Alors ça, c'est notre civilisation, on a poussé ça jusqu'au bout, par le marxisme. On est tendu au monde entier, finalement. Alors, attention, hein, y a un certain nombre de peuples qui résistent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est très important parce que l'union des peuples premiers, et on y reviendra sur la question du droit, etc., c'est un point de résistance énorme dans la folie du monde aujourd'hui. Donc, n'homogénisons pas les choses. Mais en même temps, il faut bien comprendre que cette espèce de folie matérielle, c'est sans doute quelque chose qui est rendue possible par l'humanité en général, et qu'elle a une force d'attraction par rapport à d'autres cultures, et donc en fait une force de destruction. Ça, c'est la première chose. De même, effectivement, tous les individus ne sont pas des scientifiques ou des musiciens, et la science et l'art, ça fait partie du genre humain. Il n'y a pas d'humanité sans science et art. Donc, on est un peu, si vous voulez, dans une relation analogue. Par ailleurs, en revanche, alors, tous les peuples, et les peuples premiers aussi, vont subir l'Anthropocène. Donc en ce sens-là, le anthropos, pour le coup, hein, il mérite toute son universalité. Mais c'est effectivement très important de pas en arriver à une espèce de misanthropie un peu simpliste, parce que si on devient un misanthrope, il n'y a plus qu'à s'autodétruire, et on ne peut même plus imaginer le moindre avenir.
En même temps, ce modèle occidental, hein, vous le disiez, on l'a imposé un peu au monde entier. Ça fait rêver, hein, tout le monde a envie d'avoir sa voiture, son téléphone, de consommer sans compter. Alors la question, c'est comment en sommes-nous arrivés là ? Et alors dans votre livre, vous parlez d'un terme, alors vous allez devoir nous expliquer, c'est l'exosomatisation. Et vous dites que tout a débuté finalement, alors il y a très très longtemps, avec la création de l'alphabet grec. Racontez-nous cette histoire.
Oui, alors c'est la thèse de David Abraham. Un philosophe américain qui est vraiment très intéressant. Moi, dans un autre livre, avant L'homme artifice, je vais en quelque sorte essayer de dégager le moment antérieur à celui-là. C'est-à-dire, c'est l'idée, si vous voulez, que des éléments matériels de notre milieu, qu'on incorpore, en fait, font complètement évoluer notre pensée, font évoluer nos capacités de représentation et du coup, la relation qu'on a avec le monde. Alors, la thèse de David Abraham que je reprends, que je trouve extrêmement séduisante, lui dit, ben, à partir du moment où nous avons inventé l'alphabet, alors c'est vraiment important parce que alphabet, voyelle et consonne, c'était déjà un effort d'abstraction immense. Par définition, une consonne est imprononçable. On ne la prononce qu'en la vocalisant. Donc, en distinguant voyelles et consonnes, on a fait un effort d'abstraction énorme. Et surtout, c'est la première fois que, pour savoir comment se prononce un mot, vous n'avez plus besoin du locuteur. Dans tous les systèmes d'écriture antérieure, on ne note pas la vocalisation. Et donc, on a besoin d'un locuteur pour que le mot devienne en quelque sorte vivant. Là, il a enfermé la canassée, la vie en lui. Et c'est quand même pas un hasard, si vous voulez, que la philosophie naisse dans la première civilisation qui invente l'alphabet, parce qu'en inventant l'alphabet, elle invente l'essence des choses, c'est-à-dire qu'elle fait exister en dehors de nous, indépendamment de tout locuteur, les choses elles-mêmes. Et on peut donc imaginer des relations abstraites, objectives, les unes causant les autres, etc. C'est-à-dire ce qu'on va appeler, si vous voulez, les relations causales.
Mais quel lien avec le rapport à notre environnement ?
Alors, eh bien, du coup, effectivement, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on invente l'alphabet, on fait exister un monde mental, on fait exister un monde abstrait, et puis qui, petit à petit, va se substituer au monde sensible. Hein, le moment suivant, c'est le moment de l'avènement de la science moderne. Hein, souvenez-vous le morceau de cire de Descartes ? Ben non, c'est une question de figure. Et donc, en fait, les qualités sensibles ne servent à rien, elles ne sont que pure illusion. Et tout notre monde occidental va être bâti là-dessus. La seule chose qui compte, c'est les rapports numériques, c'est les relations, ce sont les abstractions. Tout le reste ne sert à rien, donc on peut tout détruire.
Donc nous, les humains, nous ne sommes plus, par exemple, des animaux, nous devenons des êtres intellectuels.
Ah ben évidemment, l'invention de la science est là quand même par certains côtés, c'est un mélange de Grèce et de Bible, mais on n'aurait pas inventé la science si on ne s'était pas imaginé être en dehors du système Terre.
On s'extrait de la nature.
Ah oui.
Et à partir de là, on peut la dominer.
Bah absolument, c'est-à-dire qu'on s'est mis à prendre au sérieux Genèse 1:28, les hommes ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, en fait, nous, on est comme sur Sirius et on n'a rien à voir avec le reste du vivant. Et c'est bel et bien comme ça qu'on s'est conçu. Et c'est bien pourquoi on détruit, on l'a rappelé tout à l'heure, la biodiversité, sans que ça nous fasse sourciller. Alors que pour des peuples premiers, si nous sommes des animaux, et il y a une espèce de communauté de sensations, d'intérêts évidentes avec le monde animal.
Et donc avec notre dimension intellectuelle qui a pris de l'ampleur, on a perdu ces sensations finalement, ce rapport à l'autre. On faisait une émission la semaine dernière, on parlait de la forêt, le rapport à la forêt, etc. Par exemple, le rapport aux arbres, tout ce qui est sensible autour de nous.
Alors, complètement, c'est-à-dire que, alors, en même temps, il faut être très nuancé, je vais préciser ça tout de suite. Effectivement, on a mis un écran entre nous et le monde, on s'est sans doute fermé une empathie, on s'est fermé des capacités de sensation, on s'est fermé une espèce d'harmonie immédiate avec le milieu, mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, par notre savoir, on le redécouvre. Par exemple, sur les arbres, on découvre que les arbres, par leur système racinaire, échangent des signaux électriques, c'est-à-dire de l'information. On découvre que les arbres sont solidaires, qu'ils manifestent des stratégies, etc. Et en fait, si vous voulez, la différence entre l'animal et le végétal, entre ces deux règnes, hein, séparés par Aristote, elle devient méchamment poreuse aujourd'hui. Donc, en fait, il y a une partie de nos savoirs, on y reviendra après, d'où la place qui est accordée à la science à la fin du livre. Eh bien, on est capable de reprendre conscience de ça, mais j'espère qu'un jour, ça sera pas simplement une conscience abstraite, que ça sera une conscience incarnée, vécue, sensible.
Donc on revient par la connaissance, finalement, par la compréhension des choses
à notre harmonie avec le vivant.
Une harmonie, dans un monde idéal.
Voilà, du temps à ce que les économistes le comprennent, ça va être assez long.
Voilà, donc la nature est devenue un décor, et vous écrivez, du coup, nous avons placé le conditionné, c'est-à-dire nous, au-dessus du conditionnant.
Tout à fait, c'est-à-dire on a inversé l'ordre des valeurs. Et on le voit très bien juridiquement, pour le juge, l'environnement ça n'a aucune importance. Lui, il défend les droits à la liberté, donc la liberté de produire, la liberté de commercer, il en fait des absolus. Or, si l'habitabilité de la Terre se dégrade fortement, ce qu'elle commence à faire, ben adieu la liberté de commercer, adieu la liberté de produire. Il y a une inversion des valeurs.
Alors, il nous faut accepter de reconnaître que nous sommes arrivés à la fin d'un système. C'est quand même un long processus, mais nous n'avons pas beaucoup de temps parce que l'urgence écologique est là. Alors, à partir de là, nous faisons quoi ? Nous en parlons juste après une petite pause.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
on voit bien que nos progrès techniques ont amené un problème grave, dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi, mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Votre émission Environnement sur RFI. Nous sommes en compagnie du philosophe Dominique Bourg qui vient de publier Nouvelle Terre chez Desclée de Brouwer. Dominique Bourg, vous nous avez expliqué comment nous sommes en train de bouleverser les équilibres des écosystèmes de notre planète de manière quasi irréversible. Vous nous avez détaillé les raisons qui font que nous en sommes arrivés là. Maintenant, comment y faire face? Vous nous donnez de nombreuses pistes dans votre livre. Vous nous suggérez par exemple d'avoir un sursaut de réalisme, d'accepter les faits. C'est aussi le credo des collapsologues, une nouvelle sorte de chercheur qui travaille sur l'effondrement de notre civilisation. Alors pour nous aider à avoir ce sursaut de réalisme, nous avons décidé de leur donner la parole une fois par mois dans C'est pas du vent. C'est une nouvelle chronique générique.
Plus rien. Comment ça, plus rien? Vous voulez dire la fin du monde?
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
C'est l'apocalypse en édition populaire. Le siècle pourrait bien être le dernier de la série.
Bonjour Pablo Servigne.
Bonjour.
Vous êtes collapsologue, c'est-à-dire que vous vous appliquez à penser les grandes catastrophes avec Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle. Vous les expliquez au grand public. Vous envisagez même la possibilité que notre civilisation s'effondre de notre vivant. Est-ce que ce n'est pas un peu pessimiste tout ça ?
Alors je vous arrête tout de suite Anne-Cécile pour cette première chronique. Je voulais justement aborder ce malentendu. Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, catastrophiste, pessimiste. Et je voulais rectifier. Certes, je suis catastrophiste, mais pas du tout pessimiste. Alors laissez-moi vous expliquer ça. Imaginez que vous êtes malade, vous vous sentez très mal, vous allez à l'hôpital, et là vous faites des examens, et quand le docteur arrive dans votre chambre avec les résultats, vous voyez tout de suite à sa tête que c'est pas bon signe. Alors le pessimiste, si vous êtes pessimiste, vous êtes persuadé que c'est très grave et qu'il vous reste quelques semaines à vivre. Ok, et si vous êtes optimiste, eh ben vous croyez que tout ira bien. Et le docteur, finalement, n'a aucune raison de faire cette tête. Voilà, les maladies, ça se guérit. Et c'est pas ce docteur qui va gâcher le reste de votre journée.
Alors attendez, à ce stade, le patient ne connaît toujours rien du diagnostic.
Ah non, absolument. Bon, certes, c'était une situation un peu simpliste. Parce que vous savez qu'en réalité, la plupart des patients veulent connaître ce qu'ils ont, veulent savoir leur maladie. Il y a une étude qui a été faite, plusieurs études même en Europe et aux États-Unis, qui montrent qu'environ 9 patients sur 10 veulent savoir s'ils ont un cancer et même souhaitent connaître leurs chances de survie. En gros, les patients, ils s'intéressent aux mauvaises nouvelles. Alors, c'est du pessimisme de s'informer ?
Alors, imaginons que le docteur dise que la maladie est très grave.
Alors là, Anne-Cécile, je vous le fais pas dire. Vous savez que l'année 2017 a battu des records de chaleur et d'événements climatiques désastreux. Et 2016 aussi. Ah oui, en fait, et 2015 aussi. Les preuves sont aujourd'hui très claires. La santé et le bien-être des humains actuels et futurs sont gravement menacés par le changement climatique, la déforestation, la perte d'accès à l'eau douce, l'extinction des espèces, la croissance démographique, l'augmentation du nombre de zones sans vie, les dead zones dans les océans, etc., etc. Sans parler du déclin de 3/4 des populations d'insectes volants en presque 30 ans en Allemagne. Et résultat, on l'a entendu tout à l'heure avec Nicolas Hulot, les oiseaux des campagnes européennes disparaissent à vue d'œil. Voilà, mais tout ça, tout le monde le sait. Et c'est, en plus, c'est qu'un tout petit échantillon des mauvaises nouvelles du siècle. Et voilà ce que fait le collapsologue. Il rassemble ces nouvelles, ces mauvaises nouvelles, et il les pense globalement. Et surtout, il les transmet au public. En gros, on informe le patient.
Ça, c'est pour ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens savent que les choses vont mal, mais au sujet de l'avenir, il y a quand même les optimistes et les pessimistes, non ?
Oui, effectivement. Là, c'est là qu'il faut compliquer un peu les choses. Alors, l'optimiste, il voit ce tableau et il croit que la situation peut s'améliorer. D'accord ? Mais là, je voudrais distinguer deux sortes d'optimistes. Il y a d'abord le lucide, celui qui a une bonne connaissance des problèmes et qui se bat au quotidien pour améliorer le monde dans lequel il vit. Voilà, celui-là, on va l'appeler l'optimiste plus. Et c'est super, parce que cette posture positive et lui procure des bienfaits sur sa santé. Il y a eu des études là-dessus, une plus grande longévité, moins de risques d'attaque cardiaque, etc. Mais, les optimistes deviennent gênants lorsqu'ils refusent de voir le côté négatif des choses. Ils refusent de parler de catastrophe, ils reprochent aux autres même d'en parler. Je l'ai vécu, et vous en avez, vous, sûrement déjà croisé. Ceux qui veulent que des bonnes nouvelles. Bon, celui-là, moi, je l'appelle l'optimiste moins. L'optimiste moins, pour reprendre l'image de l'hôpital, c'est le malade du cancer qui exige des médecins qu'on lui donne uniquement des bonnes nouvelles. Et oui, ça s'appelle du déni. Et je trouve que c'est grave à ce stade de se priver d'informations, et ça paraît même dangereux, voire irresponsable.
Et les personnes qui croient que la situation va empirer ?
Alors ça, c'est les pessimistes, et il y en a beaucoup. Les pessimistes en distinguent aussi deux sortes. Il y a ceux que tout le monde déteste, vous savez, parce qu'ils disent que tout est foutu. Vous en avez sûrement aussi croisé. Quoi qu'il arrive, tout est foutu. Bon, celui-là, on l'appelle le pessimiste moins. Lui, en tant que patient, lorsqu'il apprend qu'il a un cancer, bah lui, il est persuadé qu'il va mourir vite. Et moi, il y a ceux que j'aime bien, c'est les pessimistes plus. Alors lui, on a un peu du mal à l'identifier. Pessimiste plus, c'est quoi ça ? C'est ceux qui se maintiennent très près des mauvaises nouvelles, donc il en voit beaucoup à l'horizon, peut-être même trop, mais il se prépare aux catastrophes. Et il s'en sort assez bien, parce qu'en se préparant, il augmente les chances de les éviter. C'est la posture philosophique du catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuis. Alors finalement, le pessimiste plus, ce dernier, en tire même des leçons de vie. Et c'est la cerise sur le gâteau, parce qu'en se préparant, une étude a montré qu'il ne tombe pas en dépression lorsque les catastrophes arrivent, contrairement à l'optimiste plus, qui lui voit sa santé mentale dégradée. Voilà, c'est le petit avantage d'être pessimiste plus.
Vous voulez dire finalement que les catastrophes ont leur bon côté ?
Mais évidemment, les catastrophes peuvent effectivement devenir émancipatrices, mais on l'oublie trop souvent. Et le sociologue allemand Ulrich Beck, qui est mort en 2015 d'ailleurs, qui s'est rendu célèbre pour avoir formalisé une théorie générale du risque global, eh bien les catastrophes majeures produisent un choc anthropologique, je cite, qui laisse des marques indélébiles sur la conscience collective. Et non seulement ce choc peut influencer et réorienter des visions du monde et des nouvelles visions du monde, mais aussi ils ont la capacité de provoquer un changement politique radical. Et donc le sociologue parle, je cite, de réconcilier l'émergence des changements positifs à partir des ombres que nous offrent ces catastrophes. Fin de citation. Voilà typiquement un point sur lequel les lucides pourraient se rejoindre. Et par lucide, j'entends les optimistes plus et les pessimistes plus. Donc pour résumer, il y a deux postures dont il faut se méfier. C'est l'optimiste béat qui refuse d'entendre les mauvaises nouvelles, hein. C'est l'optimiste moins, on va l'appeler aussi l'autruche. Et le pessimiste qui dit que tout est foutu. Lui, c'est le pessimiste moins, si vous m'avez suivi. Et donc les personnes, au contraire, qui regardent les catastrophes, les yeux grands ouverts, on va les appeler les catastrophistes, eh bien ils ont en commun de voir les problèmes et d'agir pour s'en sortir. Donc c'est le pessimiste plus et l'optimiste plus. Et juste la petite différence, c'est que le pessimiste plus, eh bien il se prépare psychologiquement et physiquement, et donc il ne tombera pas de très haut. Donc il gagne en stress, mais il gagne aussi en résilience. Voilà. Si vous ajoutez donc à toute cette lucidité dont parle aussi Dominique Bourg depuis le début de cette émission, si vous y ajoutez un peu de bienveillance, eh bien vous obtenez exactement la posture du collapsologue, c'est-à-dire informer des mauvaises nouvelles le plus sereinement possible, le plus objectivement possible, pour qu'un maximum de monde arrive à agir au mieux. Voilà, vous voyez Anne-Cécile, c'est pas du pessimisme ça.
Non, c'est pas du pessimisme, alors on retient une chose, hein, le collapsologue ne voit pas un verre à moitié vide ou à moitié plein, il le voit non seulement fissuré, mais entièrement plein, à moitié d'eau et à moitié d'air. Merci beaucoup Pablo Servigne, Dominique Bourg, comment réagissez-vous à ces propos? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste plus ou pessimiste plus vous?
Moi je trouve que le pessimiste plus, c'est la personne dont on a besoin aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il faut absolument regarder l'état de dégradation, savoir que d'une certaine manière ça va empirer, mais en même temps savoir déceler les signaux faibles pour au-delà du présent voir émerger peut-être une redistribution des cartes qui ferait que la vie serait moins absurde. Mais cela dit, il va falloir passer par des épreuves assez lourdes.
Mais nous ne sommes pas tous égaux face à cela. C'est-à-dire que ça demande quand même un accès à la connaissance, un accès aux études dont parlait Pablo.
Justement, ça c'est très important, mais je dirais avant même de parler d'accès à la connaissance et de parler d'accès aux études, il y a aujourd'hui une entreprise de bétification de masse énorme qui est conduite par certains milliardaires, disons-le. Hein, comme quand un patron, Bezos, le patron d'Amazon, nous dit qu'il faudrait qu'on soit 100 milliards d'hommes pour ensemencer la galaxie, ce type est cinglé. Et sous prétexte qu'il est milliardaire, on le laisse parler, on ne le critique pas. La démographie est un énorme problème aujourd'hui. C'est un des aspects des dégradations de masse auxquelles on s'emploie.
Des vendeurs de rêves, hein. Elon Musk fait rêver
le
monde entier.
Alors déjà, si vous voulez envoyer dans sa fusée, je ne sais plus comment elle s'appelle, un coupé sport
X-Space,
électrique.
X-Space,
non? Oui, alors ça, c'est X-Space, c'est effectivement l'entreprise. C'est pas simplement des marchands de rêves, ce sont surtout des marchands d'illusions. C'est-à-dire qu'ils font croire aux gens qu'on va pouvoir évoluer en masse à plusieurs milliards sur Mars. Alors, je vous rappelle tout de suite, sur Mars, il va falloir éviter de s'asseoir, hein, parce que la surface est très chlorée. Vous n'avez pas une atmosphère, déjà, qui vous permet de respirer, mais même qui vous protège des rayonnements cosmiques. C'est-à-dire, vous pouvez subir des radiations nucléaires mortelles. Il n'y a rien à manger, rien à boire, rien à respirer, et puis probablement pas grand-chose à voir. Hein, et puis, une fois qu'on y est, il n'y a pas de retour possible. Donc, aller raconter ça aux gens, à un moment donné où on a ce degré de dégradation, c'est criminel. Appelons un chat, arrêtons avec ces fantasmes, il n'y a pas de plan B, il faut essayer de réduire au maximum les dégradations auxquelles on s'emploie. Et c'est pas en imaginant, en faisant croire aux gens qu'on va tous se sauver sur notre planète, alors déjà, quels seraient les expéditeurs qui seraient suffisamment crétins pour détruire leur camp de base avant de faire une ascension, hein, c'est à peu près ce que nous demandent ces gens-là. Là, je trouve que c'est criminel et je ne comprends pas du tout, souvent d'ailleurs, la réaction de la presse par rapport à ces gens. On laisse parler ces gens. Donc là, il y a quelque chose de grave. Alors moi, je suis désolé, mais je préfère entendre 1000 fois le collapsologue. Il a raison. Il regarde les choses. Et surtout ce qu'il fait, parce que le scientifique, lui, il va, si vous voulez, vous donner des éléments isolés les uns des autres. Par définition, c'est son boulot. Le collapsologue, tel que vient de décrire Pablo, lui fait le lien entre tout ça. Il donne un sens à toutes ces connaissances partielles. Et il dessine un avenir à partir de là. Et un avenir dont on doit essayer au maximum d'éviter qu'il se produise intégralement.
Alors Elon Musk, ce sont aussi les voitures électriques, les batteries.
Alors, justement, là aussi, ces gens vendent n'importe quoi. Une batterie, une grosse Tesla S, c'est un quart du poids de la voiture. J'espère ne pas me tromper, il y a 15% de cobalt, 5% d'aluminium, 80% de nickel, évidemment du lithium, des terres rares. Si vous voulez, c'est un amas d'énergie. Et évidemment, il arrivera peut-être à en faire qu'il puisse tenir 600, 800 km. Ça veut simplement dire qu'en fait, si vous voulez, toute
toute l'énergie est bouffée par l'amont. En fait, une voiture comme
par
ça...
Par l'extraction des matières.
Bah oui, en fait, une voiture comme ça, si vous voulez, par rapport à une voiture équivalente de même poids, elle va au mieux, et ça dépend d'ailleurs où vous la faites fonctionner. Si vous la faites fonctionner aux États-Unis où l'essentiel de l'électricité est carbonée, ça n'a aucun intérêt. Si vous la faites fonctionner au Québec, avec Hydro-Québec, ça devient plus intéressant. Bon, donc, tout dépend déjà où elle va fonctionner, mais si vous voulez, ça ne fait que moins d'émissions de gaz à effet de serre. Quand vous faites de l'éolien, quand vous faites du photovoltaïque, c'est très bien, mais ça ne fait que moins d'émissions de gaz à effet de serre. Faut arrêter à dire aux gens qu'on peut... Alors déjà, on ne produit pas l'énergie, nous autres les hommes, on la capte, on la transforme et on la transporte. Mais qu'on est capable de le faire sans consommation d'énergie et sans consommation de matériaux, et donc d'énergie de recherche. Donc en fait, je suis désolé, le seul truc écolo, ben c'est moins... Si vous roulez moins avec une petite bagnole à essence, votre impact, il est beaucoup moins fort qu'avec une grosse Tesla.
Alors, pour faire moins, il faut avoir un sursaut de spiritualité, d'humilité,
ça,
vous le dites dans votre livre. Alors, la spiritualité au sens extrêmement large.
Alors, moi, je donne deux sens à ce mot, et en montrant comment, si vous voulez, les deux sens peuvent se recouvrir. Le premier sens, c'est ce qu'on pourrait appeler un sens ontologique. En fait, il n'y a pas de société qui n'ait pas une certaine forme de style dans sa relation, dans sa perception au monde. Je donne ce film que j'adore de Kurosawa, Derzu Zala. Derzu, qui est un animiste, en fait. Son regard sur le monde n'a rien à voir avec le capitaine russe qui l'accueille et qui l'adore, d'ailleurs. Hein, ces deux regards sur le monde qui sont complètement différents. Et ça, ni le russe n'est le maître de son regard sur le monde, ni le gold en question. C'est des choses qu'on reçoit. Moi, j'adore ce fragment de Pascal. Hasard donne, hasard ôte les pensées. Il n'est point d'art ni pour les acquérir, ni pour les conserver. Par rapport à notre propre pensée, par rapport à la manière dont on va au monde, on a une certaine forme de passivité. On ne finit par prendre conscience de ce qu'on est, en général, que assez tardivement. Et quand on commence à en prendre conscience, ben c'est qu'on a achevé tout un cycle. Et là, ça fait à peu près un siècle qu'on commence à prendre conscience, par petits moments philosophiques, si vous voulez, du fait que, effectivement, cette manière qu'on a de nous rapporter au monde est suicidaire pour nous-mêmes, et qu'on voit émerger des petites choses différentes. Mais c'est pas en tirant dessus qu'on va les faire pousser plus vite. Hein, c'est toute la difficulté. Donc en fait, le premier sens du mot, si vous voulez, spiritualité, c'est l'ancrage profond, le style de relation qu'une civilisation entretient avec le monde, qu'elle ne maîtrise pas, d'une certaine manière, elle le reçoit. Et puis le deuxième sens, c'est un sens plus classique. Vous n'avez pas de société au sein de laquelle on ne donne pas un certain nombre de comportements en modèle. Et en général, ces comportements, c'est souvent des comportements de dépassement. On est appelé à aller au-delà de nous-mêmes, à donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, ça peut être religieux, comme ça peut être athée, mais dans les deux cas, vous avez la spiritualité, qui pour moi est un phénomène beaucoup plus enraciné, beaucoup plus profond que le phénomène religieux. Or, si vous regardez les peuples premiers, eh bien, le sens ontologique et puis le sens de réalisation de soi, c'est le même. Être pleinement humain, c'est en pleine harmonie avec la forêt, par exemple, pour un peuple de la forêt. Et nous autres, qui sommes un peu des gens assez bizarres, être pleinement occidental, c'est consommer comme un cinglé, de telle sorte que ma civilisation de consommation consomme bien. Plus je consomme, et plus je suis censé être, si vous voulez, moi-même, et plus je suis censé développer ma propre humanité. Donc on a bien, dans ces deux extrêmes-là, les deux sens se rejoignent, les deux sens du mot spiritualité se rejoignent, et si on regarde dans l'histoire, évidemment, l'éloignement des spiritualités chrétiennes et si vous voulez, des monothéismes, ça commence déjà par une sorte de mutation ontologique. Donc c'est pourquoi il est nécessaire de mailler les deux.
Alors il y a quand même, vous, un peu d'optimisme, des signaux faibles de changement dans la société que vous relatez dans votre livre, hein, ouais. Où on comprend qu'il y a quand même une partie de la population, notamment dans la civilisation occidentale, qui prend conscience de ces enjeux et qui modifie ses comportements, qui va vers moins, comme vous le disiez.
Absolument. Alors oui, il y a même un mouvement de déconsommation qui reste marginal, il y a le mouvement vegan, bon, moi il y a des choses que j'apprécie pas là-dedans, mais enfin, en tout cas c'est un mouvement puissant où les gens changent, hein, changent leur comportement, ça il faut vraiment le saluer, c'est vraiment très intéressant. Je donnerais deux signaux, si vous voulez, qui sont différents. L'un, effectivement, c'est tout ce qui se passe au monde aujourd'hui avec la reconnaissance des droits de la nature. Et c'est en général très souvent connecté à des peuples premiers. Ça peut être la Pachamama, ça peut être tel ou tel comté américain où on a reconnu la personnalité juridique de certains éléments. C'est l'Inde, c'est la Nouvelle-Zélande, etc.
La Cour pénale internationale qui décide de
tout
s'intéresser aux crimes environnementaux.
Ou en France, la biodiversité de 2016 qui reconnaît le préjudice écologique, c'est-à-dire un préjudice qui ne touche pas un bien approprié.
Ou Emmanuel Macron qui veut faire rentrer le changement climatique dans la Constitution.
Alors attendez, ça dépend comment on le fait rentrer. Hein. On peut le faire rentrer de manière débile et on peut le faire rentrer de manière intéressante. Et la seule manière intéressante, c'est qu'il n'y rentre pas seul.
Donc pour l'instant, c'est plutôt la version débile, si,
bah on,
si je reprends vos mots.
On verra bien, mais j'espère bien que ça ne sera pas celle-là au bout du compte. Hein. Mais en soi, ça ne veut rien dire. Puis alors, ça dépend où on le met. Si c'est l'article 34, ça ne sert à rien.
Il faut que ce soit l'article premier ou rien. Mais enfin, c'est le sujet d'une émission à part entière.
Oui, c'est le sujet d'une émission à part entière. Mais bon, on a ce signal-là. Puis on a un autre signal qui est très important, c'est la relation science, qui devient un amas de contradictions aujourd'hui, parce que le mot science ne veut plus rien dire. On finit par faire croire aux gens que produire des objets, c'est faire de la science. Ah non, je suis désolé, il n'y a pas d'objet scientifique. Scientifique, ça veut dire le plus vraisemblable possible, et en tout cas non faux. Ça ne concerne que des énoncés. Que je puisse utiliser des méthodes précisément non fausses, les plus vraisemblables possibles, fondées sur des énoncés les plus vraisemblables possibles, c'est une chose. Après, ce que j'en fais, c'est tout autre chose. Un objet, c'est léger, lourd, c'est dangereux, c'est pas dangereux, c'est beau, etc. Bon, ça donne lieu à toute une série de modalités de jugement, et ça, c'est le citoyen qui est roi par rapport aux objets. Évidemment, pas simplement par rapport au marché, par rapport à ce qu'on peut admettre, ce qu'on peut désirer.
Ça, c'est un sens pour un petit tacle, pourquoi l'intelligence artificielle?
Non, ça, c'est encore autre chose, on y reviendra. Mais, par exemple...
On arrive à la fin de l'émission. Mais...
si vous voulez, il faut vraiment restituer à la connaissance son sens fondamental. La connaissance, elle n'est normalement pas contestable. En revanche, ce que je vais en faire et les objets que je vais produire... On est dans la vie ordinaire et on a un pouvoir énorme sur les gens. Et donc là, je n'ai pas du tout à m'effacer. Au contraire, j'ai à m'affirmer. Et qu'on dise aux gens, mais attendez, les OGM, c'est fait avec des sciences. Donc taisez-vous, vous êtes un crétin, un passéiste, etc. Ça, c'est un discours que c'est plus détaillé, il faut lire dans le livre. Mais là, il y a une espèce de tromperie immense sur la marchandise. Et il faut qu'on sache retrouver une relation de contemplation aux choses. Il faut qu'on sache redonner son prix à la vérité par-delà l'utilité. Et sans ça, on n'arrivera pas à changer notre relation au monde.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Dominique Bourg, d'être venu dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, Une nouvelle terre. C'est publié chez Desclée de Brouwer. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Et à vous d'être fidèles à ce nouveau rendez-vous. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure. Bala kumono jingongo jish Nondo kwenda jila yari kanga Nondo kwenda jila yari kanga Nondo kwa purisa santana Kitu shika ye mega bange Bala kumono jingongo jish Kala kala zi mama, ambo kita dingi kimonami. Katange se lozo kalumba, katange se lozo kalumba, o kalumba ganganda nami. Des questions, des réactions? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.